femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui dans l'émission Tout Feu Tout Femme trois femmes écrivaines. Alors je dis écrivaines, ça ne se dit pas en français, mais comme on est dans Tout Feu Tout Femme, eh ben on a le droit. Donc il y en a deux qui sont d'une orisaine et la troisième qui habite, je crois, Paris. Et
c'est exactement.
Ça. Voilà. Alors, c'est avec un grand plaisir d'abord que j'ai lu leurs livres, très très différents les uns des autres, mais non moins intéressants. Trois livres bien écrits, qui nous donnent envie de lire. Et puis je dirais, c'est bien ce que l'on demande le plus aux auteurs, hein, c'est de nous donner l'envie de lire, quel que soit le sujet choisi. Chacune d'entre elles va nous présenter son livre et nous évoquerons avec elle le métier d'écrivaine et la position de la femme dans cet art qui est l'écriture. Alors, nous avons parmi nous Christine Sarah Kertensen, qui a écrit entre autres « Avoir de la chance, ça s'apprend » aux éditions Albin Michel. Elle est psychothérapeute, praticienne PNL et formatrice et coach en développement personnel. Nous recevons aussi Bérénice Gastian, qui a écrit elle « À l'ombre des peupliers » aux éditions Baudelaire, qui elle est assistante maternelle. Et Ange Marion, qui a écrit « Recueil d'heures et d'ailleurs » aux éditions Bouclis. Son métier à elle, c'est assistante commerciale dans l'industrie. Mesdames, bonjour, bienvenue sur Couleur FM.
Bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, j'aimerais envoyer tous mes vœux de bon rétablissement à Madame la princesse Constance de Polignac, qui devait être avec nous par téléphone pour cette émission afin de nous présenter son livre « Ma vie en révolution » aux éditions Albin Michel et puis discuter avec nous. Et malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé. Cependant, moi, je vous engage vivement à vous procurer son livre qui est le récit passionnant de sa vie, une vie difficile, loin des clichés des belles princesses, hein, au cœur d'une vie et d'un milieu que l'on est loin de soupçonner et au milieu duquel la vie n'est qu'un éternel combat, finalement. Elle est donc à la fois combattante, authentique, novatrice, et elle nous redonne l'espoir qu'à force de courage et de volonté, on se sort des moments de vie qui nous semblent être dans l'impasse. Elle en est l'exemple même. « Ma vie en révolution » aux éditions Albin Michel. Remerciements aussi à Aurélie Delfly des éditions Albin Michel pour son aide. Alors, mesdames, je vais vous demander maintenant de vous présenter chacune et de présenter votre livre. Alors, nous allons commencer tout simplement par ordre alphabétique. On va prendre Christine Sarah Kertensen qui va nous présenter son livre, Christine.
Alors, moi, je suis psychothérapeute, art-thérapeute, et donc je travaille beaucoup avec les personnes que je reçois, et formatrice aussi, sur la chance. Ça m'a interpellée de savoir comment on pouvait encore plus avoir de chance, et j'ai vu qu'il y avait au moins 50% qui dépendait de nous, le reste étant plus aléatoire. Mais au moins 50%, c'est énorme. Donc, c'est comment devenir encore plus chanceux, même si on se croit déjà chanceux.
Rien que ça, ça donne envie de lire votre livre.
Alors, dans ce livre, bon, je ne vais pas tout vous énumérer, mais en tout cas, il y a vraiment mettre le cap sur la chance et savoir que de temps en temps, elle avance masquée, qu'il y a aussi à déployer les antennes de l'intuition et puis inviter les synchronicités dans sa vie. Et mon livre n'est pas du tout théorique. En fait, il y a quelques lignes pour vous dire à chaque fois une introduction, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques, donc sous forme de petits ateliers, de petits exercices et aussi évidemment de petits modes d'emploi, de rituels, de petites choses. Enfin, je pense que c'est un livre à la fois, je l'espère, profond, mais aussi léger et souriant dans le ton.
Il est amusant.
Pour donner envie.
Voilà. Il est amusant parce qu'il est très ludique, en fait. Voilà.
Voilà, je l'ai conçu comme ça parce que souvent, on met l'impact sur la chance. Oh là là, c'est grave, j'ai pas de chance. Et si on se dit, par exemple, oh là là, c'était ma chance de la chance de ma vie, que ce soit pour un emploi, ou en couple, eh bien, on se ferme la porte à d'autres chances qui peuvent venir. Donc, c'est aussi commencer par faire un petit peu le ménage de ces expressions ou de ce que l'on conçoit dans sa tête et qui nous bloque à des chances futures.
Un petit peu l'histoire du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide.
Un petit peu, il y a ça. Par contre, oui, évidemment, l'optimisme compte beaucoup. Et en même temps, parfois, inconsciemment, on a des expressions ou des croyances, comme on appelle en psychologie. C'est-à-dire des choses qu'on croit, on ne remet pas en question. Et on ne se rend pas compte qu'on les a. Et on les prend comme des évidences. Mais en fait, on est un petit peu enfermé dans ces croyances, qui sont des croyances sociales, familiales ou peu importe, ou des choses qu'on a lues. Et on se bloque, en fait, on se bloque beaucoup. On ferme la porte au nez à la chance. Alors que la chance, pour moi, c'est un personnage vivant qui rentre dans nos vies.
Alors, maintenant, nous allons voir avec Bérénice Gastion, qui, elle, a écrit « À l'ombre des peupliers » aux éditions Baudelaire. Bérénice, racontez-nous un petit peu votre aventure sur ce livre.
Voilà, donc déjà, pour me présenter, ben, je suis, je vous l'ai dit, assistante maternelle. Hein. Je travaille dans le milieu de la petite enfance, de la façon la plus simple qui soit, et dans un contentement infaillible. Donc, comment je suis devenue écrivaine? Eh bien, pour vous expliquer en quelques mots, c'est quelque chose qui m'est venu assez soudainement. Une envie irrépressible de coucher toute l'histoire de ma parenté, de ma famille, sur le papier. Et cela, je l'ai fait en même temps que mon métier, donc avec des heures non pas perdues, mais rachetées dans le temps. Voilà, il en est ressorti bien ces 444 pages d'une histoire autobiographique.
Une saga familiale. Voilà,
une saga familiale.
Une belle,
un roman,
belle saga familiale.
Historique, ouais. Autobiographique, couvrant en fait 100 ans d'histoire, mm-hmm. et qui se décline en 3 volumes. Et celui-là, c'est le premier. À l'ombre des peupliers débute à la naissance de ma grand-mère, puisque c'est son histoire que je compte, un héritage d'amour qu'elle m'a légué quand j'étais enfant. Mm-hmm. Et que j'ai retranscrit.
C'est une très belle histoire d'amour familiale.
Oui, famille, exactement, intergénérationnelle, et qui est rattachée en plus à une authentique et illustre médaille du juste.
Oui.
Voilà, j'ai voulu faire ressortir, et qui ressort parfaitement bien à la fin de l'ouvrage.
Et en plus, on peut le dire, parce que les auditeurs ne le voient pas, mais il y a aussi une histoire qui, dans ces années-là, n'était pas anodine, puisqu'il y a un mélange de culture qui se fait à cette époque-là, quelque chose qui ne se faisait pas, qui était regardé un petit peu d'un certain œil un petit peu réprobateur, et à travers cette histoire-là, on essaye de battre un petit peu tous ces a priori.
Faire rentrer la tolérance,
voilà.
En fait.
Ça manque encore aujourd'hui, donc comme quoi on n'est pas au bout du chemin.
C'est un bel exemple que ma grand-mère m'a donné, en fait.
Tout à fait.
Un
beau
cadeau. Je me devais de le partager avec autrui.
Voilà. Vous l'avez déjà au moins partagé avec moi, déjà, c'est sûr. Ange Marion, qui, elle, a écrit « Recueil d'heures et d'ailleurs » aux éditions Bouclis. Pareil, aussi un très, très joli livre aussi, avec plein de petites histoires qui sont à piocher. Racontez-nous un petit peu, Ange Marion, votre livre.
Oui, en fin de compte, je l'ai appelé « Recueil » parce que c'est un ensemble de petites nouvelles, de poèmes, de petites histoires. Moi, c'est un peu différent. En réalité, m'étant trouvée au chômage, j'ai créé une association qui s'occupe de faire des salons, des conférences pour tout ce qui est ce qu'on appelle les thérapies alternatives, que je ne connaissais pas du tout. Je suis rentrée dans ce monde-là. J'ai amené, si vous voulez, une certaine facilité à l'écriture pour leur permettre de mettre par écrit, leur faire des flyers, de faire des choses comme ça. Et petit à petit, ces personnes que j'ai côtoyées m'ont poussée en me disant « édite, mets-le vraiment sur écrit. » Je me suis laissée un petit peu entraînée, je dirais.
C'est bien.
Et j'ai commencé, c'est vrai, un petit peu, par faire des nouvelles, parce que j'ai pas voulu partir dans un roman. Je me sentais pas véritablement. Et en fin de compte, je me suis aperçue que les nouvelles étaient encore plus dures à faire qu'un roman.
Oui, parce qu'en fait, on saute du coq à l'âne, effectivement, voilà, donc ça doit vous demander...
On a un début et une chute qu'il faut véritablement faire dans un... On élimine, en fin de compte, tout le superflu. Et c'est un gros travail, en fin de compte, d'éliminer le superflu. Donc voilà, mais ce sont des histoires un petit peu certaines qui sont à la limite du fantastique, qui parlent surtout aussi du choix, de la liberté de choix. Du libre arbitre de la personne face aux différentes circonstances de sa vie, et que l'on est toujours à un moment donné libre de faire certains choix.
Finalement, il y a, sans le vouloir, un lien qui se qui se transmet dans les trois livres.
Ça se perçoit
finalement un petit peu. Chacun va prendre... Alors, nous allons faire une petite pause musicale hein, sur Couleur FM 97.1 avec une chanson, Toutes les femmes, de Tal. C'est un titre qui a été choisi par Ange Marion. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Ben, je l'ai choisi principalement pour les paroles. On choisit habituellement une chanson pour la musique. Et moi, je suis extrêmement sensible à toutes les paroles. Donc, il y a certains auteurs français qui me plaisent énormément parce qu'ils ont su mettre justement des poèmes en musique.
D'accord.
Hein, je ne vous parle pas de Cabrel ou de Goldman, c'est intéressant. Mais j'ai découvert justement ce texte de Tal qui m'a vraiment parlé. J'ai trouvé qu'il parlait véritablement des femmes d'aujourd'hui.
Eh bien, nous allons l'écouter attentivement, mesdames. Écrivain novice, l'envoi de son premier texte tient souvent du parcours du combattant. Après l'avoir écrit, relu et soigneusement corrigé, il se pose toujours les mêmes questions. À qui s'adresser ? À qui adresser son manuscrit ? Sous quelle forme ? Faut-il l'accompagner d'une lettre ? Quel délai d'attente ? Doit-il multiplier les envois, se recommander de quelqu'un, se déplacer ? Bref, vous l'avez compris, un petit peu compliqué. Mais pour donner une idée à l'éditeur, c'est un travail considérable pour un éditeur de choisir le livre qui fera mouche, si l'on sait que 3000 manuscrits arrivent tout au long d'une année chez un éditeur. Et puis seulement, le plus dur, c'est que un ou deux seulement entreront dans leur catalogue de nouvelles et romans français. Alors, Cela veut dire qu'il y a un tri sélectif et rapide. Alors, mesdames, on va commencer par Christine, parce que je continue mon ordre alphabétique, c'est plus simple. Comment êtes-vous venue à l'écriture et qu'est-ce qui vous a motivée et pourquoi, Christine ?
Écoutez, moi j'ai toujours écrit parce que mon métier précédent était d'être responsable de la communication, mm-hmm. Donc j'ai toujours écrit finalement, mais pas du tout de la même façon, pas du tout des romans ou des bouquins. Et puis à un moment donné, mon premier livre a été Au souffle d'or, c'est le souffle d'or qui m'a donné ma chance. Avec votre cerveau, vous fait-il grossir? Et à l'époque, j'étais déjà thérapeute et je m'étais intéressée à une époque où c'était pas le moment, en tout cas, dans l'esprit du public, de comment les émotions agissent sur le corps, en faisant maigrir ou grossir en tout cas. Donc là, c'était plutôt grossir en l'occurrence. Et donc, j'ai donné une lettre, j'ai envoyé un premier chapitre, et puis Yves Michel m'a donné ma chance, il m'a dit « rappelez-moi » parce que j'ai beaucoup sur mon bureau d'écrit, et ça s'est fait au bout d'un an en fait. D'accord. Un an plus le temps qu'il sorte, donc ça a fait 2 ans. Voilà. C'est assez long, hein, il faut savoir qu'il y a des délais. Mais en fait, sa décision, j'ai dû lui rappeler parce qu'il en avait reçu trop différents. Mmh. Et puis, mais il a été très, très ouvert, je dirais. Et donc, il m'a donné cette chance de publier ce premier livre, qui était somme toute pas que féminin, mais relativement féminin. Donc, le fait d'être une femme ne m'a pas posé de problème particulier par rapport au thème.
On va le traiter après, ça. On va pas parler de ce souci-là. Pour vous, Bérénice?
Eh bien, comme vous dites, oui, ça a été le vrai parcours du combattant, puisque comme je suis une inconnue parfaitement inconnue, eh bien, c'est vrai que j'ai adressé mon roman après maintes écritures à plusieurs maisons d'édition Campignon sur rue sur Paris. Mm-hmm. Mais évidemment, aucun n'a voulu prendre le risque avec une inconnue. Donc, je l'ai recorrigé et recorrigé à nouveau et à nouveau. Et je l'ai adressé à une maison d'édition, bien à compte d'auteur.
Voilà, d'accord.
Pour être sûr qu'il soit, voilà, qu'il puisse.
Ce qui se fait de plus en plus. Hein. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est compte d'auteur pour l'auditeur.
Alors, compte d'auteur, c'est-à-dire que ce n'est pas l'éditeur qui prend à sa charge les premiers livres. En fait, la maison d'édition Baudelaire m'a fait prendre en charge les 300 premiers ouvrages.
D'accord. Voilà. Donc, il faut s'investir aussi financièrement.
Il a fallu s'investir financièrement et casser une. Son bas de laine.
Voilà. Bon, j'espère que vous l'avez cassé à bon escient.
Je l'ai cassé à bon escient. Alors, c'est merveilleux. Le résultat était là et je suis vraiment très, très heureuse que le livre soit là. Quoi.
Et vous, Ange, racontez-nous. Ça nous fait un petit sourire en coin.
Oui, parce que mon parcours est à peu près identique.
D'accord.
Devant de multiples réponses négatives ou pas de réponses du tout, d'ailleurs.
C'est plus gênant.
J'ai fait moi-même en auto-édition avec Bookelis qui est en Hachette, mm-hmm. si vous voulez, donc par Internet. J'ai beaucoup appris parce qu'en réalité, il a fallu faire le livre de A à Z, mm-hmm. le mettre en page, faire les e-books, apprendre à me servir de certains logiciels que mm-hmm. je ne connaissais pas du tout, et je l'ai imprimé moi-même. D'accord. J'ai fait le travail de A à Z.
Bon, alors on a quand même 3 expériences un peu différentes. Mais
et
c'est
là,
un peu
après, Bookelis se propose donc un imprimeur. D'accord. Et donc, j'ai travaillé avec cet imprimeur qui m'a renvoyé plusieurs fois des documents. Mais après, on se prend en charge entièrement, que ce soit au niveau donc, des différentes dépôts auprès donc, des organismes officiels, etc. Mais c'est intéressant parce qu'on va vraiment au cœur, c'est-à-dire qu'on fait véritablement tout le travail d'un éditeur. Mais on est tout seul après pour pouvoir vendre son livre.
Ça, c'est peut-être plus dur.
Sauf que après...
Vous aussi, ça a bien marché.
Ça a bien marché. J'ai des librairies sur place ici qui m'ont pas mal aidé justement.
Voilà, comme quoi il faut bien garder nos petites librairies de ville, de village.
Ou même des librairies connues, hein, je veux
oui,
dire.
Oui, oui, mais je veux dire que c'est important de garder... Internet, ça fait pas tout, quoi, voilà. C'est ce que je voulais dire. Deuxième question, doit-on obligatoirement être très bon en orthographe pour écrire, ou bien tout simplement doit-on avoir le goût des mots et le sens de la phrase et de la créativité exacerbée? Christine, pour vous.
Écoutez, moi, je vous dirais que du bien de la créativité de toute façon. Et puis, lorsqu'on écrit, c'est quand même qu'on a envie de créer et qu'on a aussi la persévérance. Parce que comme on a vu déjà pour le faire éditer, mais aussi c'est un gros travail d'écriture. C'est du temps tout seul, c'est du temps de recherche, c'est du temps, comme vos invités l'ont dit, aussi de se recorriger, enfin de se remettre à l'ouvrage. Donc, il y a de la créativité, ça c'est sûr. L'orthographe, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai une bonne orthographe, mais sinon, je pense que ça, il y a des personnes qui corrigent, puis il y a des correcteurs, mais c'est surtout le goût des mots et le sens des mots, parce que c'est important par rapport au public auquel on s'adresse.
D'accord. Et vous, Bérénice ?
Oui, en fait, les deux sont complémentaires, hein, d'avoir une bonne orthographe et puis d'être dans la créativité, d'aimer les mots, les belles phrases, tout en rondeur, habiller le texte.
Est-ce que vous avez ressenti, vous, que c'était rédhibitoire, l'orthographe, pour ou pas ? Je dis parce qu'il y a plein de gens qui font des fautes et qui aimeraient écrire.
Oui, c'était compliqué parce que quand on écrit, eh bien, on se rend plus compte au bout d'un moment des fautes.
D'accord.
Et même en lisant et en relisant, on ne les voit plus.
D'accord.
Et des fois, en revenant sur le texte au bout d'un mois, par exemple, eh bien, on se rend compte qu'on a laissé échapper, eh bien, des fautes énormes qu'on n'aurait jamais dû laisser passer. Quoi. Et c'est vrai que des fois, bon, un correcteur professionnel, ça peut être intéressant. Voilà, très, très intéressant.
Pour vous, Ange ?
Moi, je n'avais pas le choix. Il fallait un orthographe qui soit impeccable, sinon... Donc, le livre a été lu, et relu, et pas seulement par moi, bien entendu. J'ai appelé à l'aide la famille, les amis.
Bon.
Et ils ont été relus et corrigés de maintes fois avant d'avoir véritablement une orthographe. Bien sûr, l'orthographe, dans ce cas-là, était indispensable parce qu'il n'y avait pas un correcteur professionnel derrière. Mais maintenant, je rejoins la personne. La créativité et le fait de mettre les mots, et puis surtout, utiliser véritablement le vocabulaire français dans toute sa richesse.
Oui,
parce que,
tu sais si...
Voilà, parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il disparaît un peu et vraiment utiliser même des mots inconnus, je dirais, du grand public pour justement leur donner l'envie de chercher ces significations, chercher ce mot. Entre plusieurs mots, la signification, parfois, n'est pas tout à fait identique. Et bien choisir le bon et amener les gens, justement, à aller chercher cette différence.
C'est ce que j'ai aimé dans vos livres, c'est cette richesse aussi hein, de vocabulaire, d'idées et de phrases. C'est quelque chose qui...
Le dictionnaire aide beaucoup.
Voilà, tout à fait.
Avec alors, les synonymes.
Oui, il faut... Bah, de toute façon, hein, quand on écrit, par définition, il faut toujours avoir son petit dictionnaire à côté de soi. C'est son meilleur compagnon. Hein. Alors, quel type de livre écrivez-vous chacune ? Est-ce que vous restez toujours dans le même style de livre ou, bon, roman, santé, actualité, ou bien est-ce que vous aimez varier pour vous, Christine ?
Alors, moi, c'est quand même toujours plus ou moins dans le développement personnel, si vous voulez, mais le développement personnel, c'est très, très large. Donc, ce n'est pas que psychologie. Comme je vous ai cité, le premier, c'était « Votre cerveau vous fait-il grossir ?» Il y a une douzaine d'années, mais après, j'ai beaucoup écrit sur la facilité à se détendre, à la gestion du stress et des émotions. Et puis, j'en ai écrit d'autres sur plutôt sur les contes, l'intérêt des contes dans notre vie. Pas seulement pour raconter des belles histoires, mais ce qu'ils nous donnent comme essentiel, on va dire, même comme valeur spirituelle. Et puis, voyez, là, c'est une autre approche, un autre éclairage qui est donc avoir de la chance. Donc, ça, c'est ce grand, immense domaine de développement personnel, mais il est tellement immense que ce n'est pas encore des romans. Peut-être un jour, j'écrirai un roman, mais pour l'instant, c'est plutôt, moi, j'aime beaucoup cette fonction de donner des outils, de la facilité aux gens pour que la vie leur soit plus belle, plus facile et plus heureuse.
D'être un fil tendu entre les...
Voilà.
Entre les gens.
Oui. C'est un très beau rôle, je trouve. Ouais.
Tout à fait.
Et les lecteurs me le rendent bien, en tout cas.
C'est super, alors. Pour vous, Bérénice ?
Eh bien, pour moi, je suis tout à fait novice, puisque c'est
le premier.
Mon premier roman.
Voilà, ok.
Quoi vous dire
Donc, pour l'instant, on est dans le roman.
C'est dans le roman. Voilà. C'est une histoire en trois volumes, dont je suis sur l'écriture du deuxième.
D'accord.
La relecture et la correction avant de l'adresser à une maison d'édition et qu'il soit décent.
Bon, alors,
qu'il n'y ait pas trop de fautes.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Voilà.
Hein.
Voilà.
Et pour vous, Ange
Disons que j'ai écrit plusieurs. Enfin, j'ai beaucoup écrit, mais je n'ai jamais publié. Je n'ai jamais eu le courage, en réalité, de proposer à la lecture ce que je faisais. Et là, c'est vraiment le premier que je mets en public. Si
c'est vrai qu'on a souvent l'impression, quand on écrit, qu'on a un petit peu honte de, en se disant non, on n'est pas à la hauteur, non, est-ce que ça ne va pas intéresser, c'est tellement banal. C'est un petit peu, je pense, le sentiment qu'on doit avoir quand.
Disons aussi, c'est, je rejoins madame, là, Christine.
Christine, oui.
C'est vaincre ses peurs et puis accepter à un moment donné de ne plus avoir le regard de l'autre comme étant un jugement, mais simplement je propose et puis vous disposez. Si ça ne vous plaît pas, ben tant pis, c'est pas.
C'est une belle formule. Je propose vous disposer. C'est très bien.
Et puis, comme je disais, j'ai écrit à l'intérieur deux petites nouvelles pour des enfants, justement, pour ramener, si vous voulez, un peu le côté merveilleux. Et puis, bon, moi, je n'ai pas de petits-enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants autour de moi. C'est pouvoir partager le même livre.
Bien sûr. Ça, c'était intéressant, effectivement, dans votre livre aussi, cette approche de la du fait que vous pouvez avoir accès, plusieurs personnes d'âges différents peuvent avoir accès à ce livre-là. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait interpellée aussi. Alors, une question multiple, mais une question quand même. Comment est-ce que vous choisissez le sujet ? Comment vous y prenez pour écrire un livre ? Est-ce qu'il y a un mécanisme ? Voilà, Christine.
Alors, oui, je dirais le mot principal pour écrire, c'est vraiment oser, hein. Comme on dit vos invités, c'est vraiment plonger, oser, et puis il y aura de toute façon un public, probablement. Mmh. Vous voyez, c'est que ça correspond à un besoin. Moi, je suis persuadée, si on a quelque chose en tête, une idée, et qu'on la pousse autant, je pense que ça correspond à un public, après plus ou moins grand. Alors, comment je m'y prends ? Moi, j'ai toujours au moins, j'ai beaucoup d'idées d'avance, si vous voulez. Mmh. Alors après, laquelle doit se réaliser ? Bah, ça se négocie un petit peu, pour moi, avec l'éditeur. Là, par exemple, pour... chez Albin Michel, avoir de la chance, ça s'apprend. On a parlé d'autre chose. J'avais déjà écrit chez eux sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis là, je l'avais dit, j'ai en tête d'écrire un livre. Et puis ils m'ont dit, ok, banco, écris-nous, faites-nous part au moins des grandes lignes. Donc j'ai fait part des grandes lignes, on a discuté. Et puis après, ça a pris un an pour se faire, comme ça se fait en général chez un éditeur. Et un an, c'est très peu. Et puis après, ça se mature. Moi, par exemple, dans mon travail personnel, j'ai récolté des éléments. J'avais bien sûr déjà des idées. C'était dans ma tête depuis deux ans au moins. Et puis après, il y a la production, ce qu'on appelle la production. Et je l'ai fait avec le plus grand plaisir. Mais c'est un temps sur son temps professionnel. Évidemment, c'est un temps qu'on se prend. Moi, c'était dans mon temps de vacances. Et j'avais mes petits rituels tous les matins pour m'amuser à écrire, je dirais. Voilà. Que ce que je transmets, j'espère, comme chance et comme joie, se transmettre aussi par l'écriture auprès du lecteur.
D'accord. Pour vous, Bérénice, j'ai du mal, excusez-moi, d'un prénom à l'autre.
Oui, eh bien, bon, moi, c'est pas tout à fait pareil. Hein, bon, comme on l'a vu, c'est
oui,
un
puisqu'on
roman,
est dans trois situations différentes.
Une histoire autobiographique. Mm-hmm. Donc, j'avais déjà un plan tout tracé, comme un arbre généalogique.
Voilà.
Et bien, il m'a fallu transcender tous les personnages du roman.
Beaucoup de
recherches.
Voilà.
Par exemple, une des villes principales du roman, c'est Lacône-les-Bains, où ma grand-mère a vécu pendant 15 ans, que je ne connaissais pas. Ben, je m'y suis rendue pour m'imprégner de toutes les ruelles, des murs de cette ville, pour pouvoir pour qu'elle
puisse
ressorte,
visualiser,
qu'elle ressorte le plus... qu'elle soit la plus près de la réalité. Quoi.
Alors, c'est vrai que dans votre livre, moi, j'avais l'impression de voir les images au fur et à mesure
que
je lisais. Parce que
ça,
vous avez trois livres très, très différents. Mais pour celui-ci, effectivement, c'était vraiment, on avait l'impression de voir les photos qui défilaient.
Oui, parce que je l'ai vécu.
Voilà. On le sent.
Voilà,
dedans,
quand ça débute, ma grand-mère, c'est le jour de sa naissance, j'ai eu l'impression de la porter dans mon ventre, de la faire naître. Mmh. Voilà, toute l'histoire, j'ai été habitée par tous les personnages.
Bah, ça se sent. Et vous, Ange, alors, comment est-ce qu'on s'y prend ?
Pour moi, si vous voulez, c'est écrire pendant des années. Et puis après, à un moment donné, on fait un tri, on choisit. Et comme je disais, comme je voulais que ce soit des nouvelles, donc on trie vraiment. On fait de la coupe sombre. Et pour arriver à avoir véritablement quelque chose qui soit condensé. Et puis après, il y a des poèmes, là, je ne sais pas, ça vient tout seul. C'est souvent le matin, en me levant, j'ai des idées, je les concrétise le soir. Alors, le soir, jusqu'au lendemain matin, quand je suis démarrée, jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis le lendemain matin, de nouvelles idées viennent. Et là, pendant 4-5 jours, c'est fini. Et puis après, je reprends. C'est vraiment bizarre. Puis surtout que quand on écrit, à un moment donné, on n'est plus maître. Comme on dit que souvent, je ne comprenais pas ce que disaient en fin de compte les auteurs quand ils disaient que c'était les personnages qui prenaient le dessus. Et c'est vraiment, c'est vraiment la réalité. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'écriture d'un livre et dans sa publication? Alors, une fois que l'éditeur est trouvé, est-ce que vous avez aussi le choix des sujets? Donc, on va répondre rapidement, parce qu'on est déjà sur la fin de la première partie de l'émission. Christine, pour vous.
Alors, moi, le premier que j'ai écrit, l'éditeur n'était pas trouvé. J'ai eu envie d'écrire ce livre, donc je l'ai écrit, et puis après, j'ai cherché l'éditeur. Mmh. Et ça s'est fait la plupart du temps comme ça, sauf avec Albin Michel, justement, où là, j'avais déjà écrit pour eux, ils m'ont demandé quelque chose, et puis après, j'ai pu proposer. D'accord. Voilà. Mais déjà, j'avais écrit quelques livres, vous voyez, ça s'est pas fait tout seul. Donc ça se fait pas tout seul. D'accord. Quand même, il se passe beaucoup de temps en fait, hein, pour trouver un éditeur, parce que on a énormément de refus. Mais bon, ce qui rassure, c'est que il y a aussi de grands auteurs qui ont été refusés 10-15 fois dans leur voyez, pour leur roman ou pour leur livre. Donc on se dit pourquoi pas moi.
Vous, Bérénice, donc le problème se pose pas puisque vous en avez écrit un seulement. Pour vous, vous en êtes au premier ou vous en avez d'autres?
J'en ai d'autres.
D'autres aussi. Oui, donc même procédé, même problématique, même...
En fin de compte, je voulais voir déjà le premier, quel était l'accueil qui lui était réservé.
Ouais. Et comme c'est en plus une libre édition, donc du coup, c'est vous qui choisissez les sujets pour toutes les deux. C'est un petit peu différent de Christine, peut-être, bien que vous restez quand même... vous décidez quand même de ce que vous faites.
Moi, j'ai toujours choisi. C'est-à-dire, mes sujets, je les propose, vous voyez. Et parmi les sujets que je propose, parce que je vous dis, j'ai toujours 2-3 livres en tête, quelque part, enfin, en tout cas, qui pourraient devenir des livres. Et donc, l'éditeur choisit. Puis, en général, j'essaye de défendre avec conviction celui auquel je tiens davantage.
Alors, très
rapidement. Comme pour la chance.
Comme pour la chance, oui. Très rapidement, est-ce qu'on peut, en quelques mots, est-ce qu'on peut vivre de cette écriture, Christine? Est-ce que vous pouvez vivre
pas
avec
ça? Pas du tout. Moi, personnellement, pas du tout.
Vous, Bérénice?
Non,
à l'unanimité, non. Donc, ça reste un plaisir. Ça reste un plaisir. C'est ce que je voulais quand même qu'on dise haut et fort, parce que c'est important de ne pas croire non plus qu'on peut vivre de ça. C'est ce que je le pensais, mais bon. Alors, merci. Nous allons passer donc maintenant à une pause musicale sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout feu, tout femme. Et nous allons écouter Jean-Jacques Goldman, Comme toi. C'est un choix de Bérénice Gastien, pardon. Et vous avez choisi cela, bien sûr, à l'histoire de votre famille.
À l'histoire de la famille, de ce peuple qui a été martyrisé. Et cette petite Sarah qui a été, en fait, qui est... Cette petite Sarah de Jean-Jacques Goldman, elle n'a pas eu un joli sort, alors que le petit garçon que ma grand-mère a sauvé, eh bien lui, il vit aujourd'hui,
voilà.
Il vit à Agnières en région parisienne, et il a 83 ans, ce monsieur.
D'accord, belle histoire. Alors, on écoute Jean-Jacques Goldman, Comme toi, une magnifique chanson.
Sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant.
Alors, la femme écrivaine de tout temps a existé en tant que telle dans la société, mais son parcours n'est pas pour autant simple. On a pu voir des femmes publiées sous un nom d'homme. D'ailleurs, souvent, elles utilisent un nom d'emprunt. Les raisons d'adoption d'un pseudonyme masculin par les femmes de lettres sont diverses. C'est s'alléger de la pression sociale, notamment jusqu'au début du XXe siècle. Trouver un éditeur qui accepte de faire paraître, à défaut du vrai nom, le pseudonyme de l'auteur sur la couverture. Offrir au lecteur misogyne une lecture dénuée de préjugés. Et donc de toutes les femmes de lettres ayant signé leur ouvrage d'un pseudonyme masculin, la plus connue, eh bien, c'est probablement George Sand, voilà, dont le vrai nom est Amantine Aurore Lucille Dupin. Alors, est-ce que, mesdames, vous utilisez vous-même un nom d'emprunt et pourquoi, Christine ?
Non, moi c'est tout à fait mon nom, j'ai officialisé ce nom-là, non, il n'y a pas de problème pour publier sous mon nom.
Bérénice ?
Oui, j'ai utilisé un nom d'emprunt, un pseudo, puisque c'est une histoire authentique, et comme il y avait des cactus dans les placards et que je les ai ressortis pour que l'histoire reste dans sa grande véracité, il a fallu que je change de nom.
D'accord.
Et tous les personnages aussi ont changé leur nom.
D'accord. Voilà. Et pour vous, Ange ?
Bah, c'est pas véritablement un nom d'emprunt, en réalité c'est mon nom de jeune fille.
Voilà.
Donc j'ai décidé, si vous voulez, de remettre mon nom de jeune fille. En plus, il est beaucoup plus simple que mon nom de famille, donc c'est plus facile à trouver après. Non. Voilà.
Alors, comment est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que femme écrivaine dans la société du livre, mesdames ? Christine, en premier.
Que dire ? Moi, je me sens à ma place dans la société du livre. Il y a maintenant, on n'est plus au siècle de George Sand où là, effectivement, c'était très difficile de se faire publier. Et je pense qu'il y a aussi déjà beaucoup de femmes écrivains, que ce soit en termes de romans ou en termes de développement personnel, loisirs, de plus en plus.
Pour vous, Bérénice ?
Eh bien, moi, je rejoins Christine. Je me sens très, très bien dans cette place. Les femmes ont trouvé une place très très belle au sein de notre société et on va la garder.
Bien sûr.
Là, je suis tout à fait de cet avis. Il n'y a aucun problème au niveau de l'écriture.
Alors,
contrairement à d'autres arts qui sont beaucoup plus misogynes, l'écrivaine
est libre.
Est libre.
C'est vrai qu'on dit écrivain, mais c'est mon petit côté rebelle qui me fait dire écrivaine. Vous m'excusez, pardonnez. Alors, d'après vous... Pardon, c'est gentil, merci. D'après vous, une femme se lance-t-elle plus facilement dans l'écriture qu'un homme? A-t-elle les mêmes chances d'être publiée? Et les éditeurs sont-ils plus réticents à publier une femme? Alors, bon, malheureusement pour Bérénice et puis pour Ange, on va avoir du mal à en discuter. Mais pour vous, Christine, qui êtes chez un éditeur, un plus gros éditeur, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce phénomène?
Je ne suis pas certaine que ça dépende vraiment du sexe de la personne pour publier. Ça dépend de ce que surtout les éditeurs ont envie de choisir et ce qui peut à leur idée fonctionner. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça se joue. Est-ce qu'il y a un public pour ça et un public assez large pour que tel ou tel éditeur puisse rentrer dans ses frais, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est un partenariat aussi, et tout en publiant des choses qu'il juge intéressantes. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur Internet qui se publient, et c'est très bien, et qui sont déjà sur Internet, puis publiées ensuite chez les éditeurs, qui font une veille sur Internet pour des choses qui sont publiées après. C'est l'inverse d'avant.
C'est-à-dire qu'eux vont chercher petit peu, ils vont aller à la pêche à ce qui est... D'accord, ok, c'est intéressant de savoir aussi ça. Alors... Bon, on en a parlé tout à l'heure déjà, comment vous avez choisi votre éditeur, vous nous l'avez déjà expliqué, donc la question, voilà. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, par exemple, Christine, ou bien c'est lui qui vous a choisi finalement?
Alors, je l'ai souhaité, en fait, comme je donne des formations, c'était une heureuse circonstance, c'est que je l'ai souhaité parce que j'avais envie de publier chez Albin Michel les deux derniers bouquins. Et en fait, il se trouve par une heureuse rencontre qu'une personne est venue en formation et m'a dit, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Et puis après, elle m'a dit, ça peut nous intéresser en ayant lu les précédents livres que j'avais écrits.
Et vous, donc, Bérénice, c'est pareil, c'est compliqué, puisque c'est vous qui avez été à la pêche aux éditeurs.
Voilà, tout à fait. Donc, quand je l'ai trouvé, bien...
Mais ça n'a pas été facile, quand même. Donc,
non,
ça, c'est aussi important de le dire.
Ça n'a pas été facile. Ça m'a pris 5 ans, quand même. Hein. À partir du moment que j'ai commencé à écrire, jusqu'à ce que le livre sorte sous cette forme, de 444 pages...
Donc du coup, je vais rebondir sur le livre de Christine et je vais dire avoir de la chance, ça s'apprend peut-être, non? Parce que là, c'est un coup de chance quand même, quelque part, Christine, non? Parce que vous, par exemple...
C'est pas un coup de chance, parce que si vous voulez, bien sûr, ça peut paraître comme un coup de chance, mais en fait, il y a quand même beaucoup de travail de oser, d'aller frapper aux portes. C'est pas le premier éditeur que j'ai testé qui m'a pris tout de suite et puis ça s'est fait, puis on signe le contrat, hein. Pas du tout. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de refus, pas pour celui-là, parce qu'il est venu au bout de, quand même, ça fait 6 bouquins que je publie, mais si vous voulez, dans les premiers, j'ai frappé à des portes, et j'ai eu des refus. Donc, celui-là, disons que je pense que c'est parce que j'avais déjà publié que cet éditeur de cette importance m'a fait confiance, vous voyez.
Et les premiers, vous aviez publié chez Albin Michel aussi ou pas?
Le tout premier, c'était au Souffle d'Or. C'est le Souffle d'Or qui m'avait donné ma chance. Et puis après, chez Dervy, il y a eu d'autres éditeurs. Et puis j'ai aussi beaucoup de refus. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Mm-hmm. Oui, mais moi, je rejoins tout à fait. C'est la persévérance. De toute manière, il y a ça, la persévérance. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Le hasard, il arrive que parce que vous avez mis en place tout un ensemble de choses.
Système.
La chance se provoque, c'est tout à fait ça.
Elle se crée.
Absolument.
C'est un beau message.
Non, il faut véritablement persévérer quand on a quelque chose, un rêve ou quoi que ce soit. Il faut persévérer. À un moment donné, si vous y croyez vraiment, ça arrivera. Mais il faut vraiment y croire.
Donc, on lance un grand message. Persévérer dans la vie.
C'est ça la chance.
Oui, c'est ça la chance finalement, c'est d'avoir la capacité à persévérer.
Voilà, absolument. De se donner la chance de persévérer pour qu'il y ait un résultat et pas toujours par les chemins que l'on croit.
Et puis ne pas sous-estimer peut-être aussi.
Absolument. Hein,
croire en soi.
Absolument.
Parce que je pense que ça, c'est... Voilà, avoir confiance en soi, c'est pas gagné. On ne l'apprend pas dans les écoles. C'est triste, d'ailleurs, parce que je trouve que ça devrait faire partie de l'enseignement d'apprendre aux enfants à avoir confiance en soi. Mais dans la société française, et sûrement dans d'autres, on apprend plutôt à l'élève de ne pas avoir confiance en lui. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est caractéristique, en fait. Peu de gens ont confiance en eux, en fait.
Très peu.
Moi,
très peu.
Hein, et puis être timide, je pense qu'on est beaucoup réservé. Il a fallu que je sorte de cette carapace. me mettre en avant pour
pouvoir, oser.
Oser.
Voilà. Alors, combien de manuscrits, vous nous l'avez dit, avez-vous envoyé avant d'avoir une réponse favorable? Là, vous nous l'avez tout dit. Est-ce qu'il y a un profil type de lecteur pour ce que vous écrivez? Et quelle tranche de la population est-ce que vous touchez, Christine?
Ah oui, enfin ça dépend des livres évidemment, mais en tout cas pour celui-là, alors tranche de la population, c'est pas en termes d'âge, parce que ça peut concerner tout le monde d'avoir de la chance et d'apprendre à avoir de la chance ou encore plus de chance, mais en tout cas oui, c'est un profil de personnes qui commencent à s'ouvrir à la vie ou qui le sont déjà, ou qui sont déjà ouvertes à la vie, qui ont au moins, je disais, est-ce qu'on est waouh, je crogne, je fais un petit test dans mon bouquin, faut être plutôt waouh, mais même si on est un petit peu je crogne, il faut quand même persévérer dans la lecture du bouquin parce que ça peut donner des pistes pour devenir chanceux.
Le scrogneugneux, il amène au waouh peut-être aussi.
Comment ?
Le scrogneugneux, il finit par amener au waouh.
Il amène au waouh, hein ? Oui, c'est surtout s'il lit mon livre.
Surtout s'il lit votre livre, je confirme.
C'est le but du livre.
Alors pour moi, c'est un livre qui s'adresse à monsieur tout le monde, madame tout le monde, hein, puisque d'ailleurs ma grand-mère, son nom c'est madame Manon.
Oui.
Et Manon, les Manons, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, c'était le commun du peuple. Donc, ce qui signifie que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, que ce soit des collégiens, la femme au foyer, des hommes, ceux qui aiment l'histoire, les romances historiques, de 13-14 ans jusqu'à...
Jusqu'à 90 ans,
jusqu'à 90 ans,
jusqu'à tant qu'on n'arrive plus à lire, voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est un livre qui, du début à la fin,
qui s'adresse à tout le monde,
vous prend, vous donne envie de pleurer, vous fait rêver, vous donne, il est plein d'émotions, ce livre. Alors vous avez toutes les trois, ils sont tous les trois avec plein d'émotions, mais vraiment c'est très différent, hein, c'est trois sujets différents. Mais pour parler du vôtre, effectivement, c'est un roman, donc déjà c'est très différent. Et on a tout ou plein d'émotions que vous faites très bien passer dans votre livre, c'est sûr. Ça, j'ai bien aimé, j'étais vraiment prise dedans aussi. Ouais,
on m'a dit que c'était très fluide.
Oui.
Que
c'est une belle histoire familiale, en fait.
Descriptions, on avait l'impression d'être dans l'histoire, d'être un des personnages centrales du livre. On pouvait s'incorporer dedans.
Pour vous, Ange?
Mais moi, j'ai été assez surprise, je dois avouer, parce que je pensais toucher un public plutôt féminin, du fait qu'il y a des poèmes, qu'il y a deux contes pour enfants, donc je pensais vraiment toucher plutôt les femmes. Et j'ai été très surprise, justement, de voir beaucoup d'hommes y adhérer. Je ne pensais pas. Ils ont apprécié certains, ils ont, selon ce qu'ils m'ont dit, appris certaines choses, se remis en question sur certaines choses. Et c'est vraiment la surprise pour moi, en fin de compte, qu'un public masculin adhère à ce livre.
Mais pour vous, c'est pareil, c'est un livre, je dirais, où on peut picorer. J'ai l'impression d'être... on fait un petit peu du self-service, quoi. On prend celui-là, on va chercher l'autre, on feuillette, on fait son marché, en gros, dans votre livre, hein. Et donc, du coup, on tombe toujours sur quelque chose qui nous interpelle, qui va nous faire réfléchir,
qui va correspondre peut-être à quelque chose, à une problématique ou à une envie qu'on a à ce moment-là, oui. Mais je l'ai fait exprès, en fin de compte. À un moment donné, je me suis dit, t'es partie de n'importe où, t'as mis n'importe quoi dedans, t'as tout vraiment la cuisine, t'as mis tous les ingrédients, t'as tout mélangé, puis en fin de compte,
les meilleurs pot-au-feu bourguignons et tout ça, c'est ceux qui sont les moins traditionnels, quoi. Il faut y mettre tout son cœur, tout son âme, hein, pour que ce soit bon.
Il y a vraiment beaucoup de pistes différentes, complètement différentes. J'avais peur un peu de faire, que les gens ne se retrouvent pas, justement, et puis en fin de compte, si.
Quant à Christine, moi, je suis dépêchée de parcourir parce que j'avais envie d'avoir de la chance et d'apprendre à avoir de la chance. J'ai foncé. J'ai bien aimé les scrogneugneux et les waouh. Donc...
Et puis, il y a différentes pistes très concrètes aussi à mettre en œuvre dans sa vie quotidienne.
Oui. C'est une remise en question. C'est une remise en question de soi-même, en fait.
Voilà. Et puis, quelques contes philosophiques ou non philosophiques, très pragmatiques, de toutes les nationalités. pour nous aider à envisager d'avoir de la chance.
Oui, parce qu'en fait, on se rend compte aussi, alors si on voyage beaucoup, moi c'est mon cas, j'ai beaucoup voyagé, on se rend compte que la chance, elle n'est pas la même partout, en fait. Il y a des gens qui sont très très pauvres et dans des misères pas possibles et qui sont quand même heureux et qui estiment quand même avoir de la chance et, être, et avoir du bonheur. Donc c'est vrai que c'est, tout est relatif, tout est une question de prise en compte des choses et de façon de voir les choses de la vie.
Vraiment des façons de voir, oui, parce que j'ai vu des peuples que nous, on pourrait considérer comme très malheureux et qu'ils sont peut-être économiquement, mais que ça n'empêche pas de sourire à la vie et ça, ou que les enfants, dont les enfants sourient à la vie et les adultes aussi.
Tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est très frappant. Il y a la princesse Constance de Polignac dans son livre Ma vie en révolution qui parle de peuples avec qui elle a vécu et qui explique justement cette façon d'avoir la vision de la vie positive, quoi qu'il arrive. Et c'est. Dedans, c'est très bien expliqué aussi. C'est une belle histoire aussi à lire. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale sur Couleur FM 97.1 dans notre émission Tout Feu Tout Femme, où aujourd'hui, nous recevons trois écrivaines. Et donc, cette fois-ci, c'est Christine Carstensen qui nous a choisi sa chanson, John Lennon, Imagine. Pourquoi, Christine ?
Imagine, parce que je crois que tout dans la vie part de ce qu'on peut imaginer. Si on imagine que c'est possible, alors on se donne la possibilité et la chance que ça devienne possible. Mais ça commence par le rêve, l'imagination, et ensuite ce sont les pas vers la concrétisation.
Merci pour cette explication, Christine. On écoute tout de suite Imagine de John Lennon. Mesdames, un grand merci pour votre participation. Nous voilà à la fin de cette émission. Je vous souhaite plein de succès avec vos ouvrages que nos auditeurs pourront donc retrouver sur notre site internet www.couleurfm.com, mais aussi sur internet tout simplement, dans la rubrique pour nous Passion Lecture. Pour vous, il faudra chercher, mais je vais remettre tout ça sur internet, sur Couleur FM. Il y aura les titres, notamment dans Passion Lecture. Mesdames, une petite conclusion rapide. Christine, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure?
Alors moi je voudrais dire qu'il y a beaucoup de personnes comme Chaplin par exemple à qui on a refusé le personnage de Charlot, tous les producteurs, et en fait il a créé sa propre maison de production et on voit ce que c'est devenu après ce personnage de Charlot avec Charlie Chaplin. Donc courage et persévérance.
Allez, on y va. À vous, Bérénice.
Moi, je vais dire que je suis tellement heureuse de ce premier livre qui a pris son envol, et bien que je suis tout à fait prête à faire partir le deuxième sur la ville d'Aigone, puisque ce sera, l'histoire s'appelle Dans la chaleur du béton et se passe dans la région lyonnaise, avec mon enfance.
Impeccable. Et pour vous, Ange?
Ben oui, je rejoins les deux personnes. Simplement oser aller au bout de vos rêves, oser faire ce que vous avez envie de faire sans vous arrêter au regard des autres. C'est votre propre regard qui compte en premier, et si vous avez envie d'écrire, eh ben écrivez.
Alors, moi, je vais reprendre, avant de conclure cette émission, quelques mots qui m'ont interpellé sur vos conclusions. Je reprends le courage, la persévérance, l'envol, oser, et puis ne pas s'arrêter au regard des autres. Ça vous va comme conclusion, déjà?
Tout à fait.
Alors, je vais terminer par, parce que j'aime bien dans mes émissions avoir une petite phrase comme ça pour finir. C'est Françoise Dolto, qui était médecin psychanalyste bien connue, qui disait « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Voilà. Alors, puisse cette phrase être encore entendue très longtemps. Merci donc de nous avoir suivis dans Tout Feu Tout Femme durant ces dernières années. J'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. C'était ma dernière émission sur Couleur FM. Je remercie toutes les personnes formidables que j'ai rencontrées, et vous, mesdames, entre autres, qui ont participé à cette émission et qui m'ont beaucoup appris sur des sujets vraiment très variés, parfois très durs aussi. On a fait des émissions sur des sujets très, très compliqués. Merci à Couleur FM et à ses responsables de m'avoir donné la chance de faire cette émission, et bien d'autres aussi, puisque je n'ai pas fait que ça sur Couleur FM. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci Laurent, le technicien, mon petit Géo trouve tout. Hein, j'avais un petit peu l'alarme à l'œil de te laisser, Laurent. Merci pour ton aide, ton sourire et puis ton trait d'humour toujours présent. Merci pour ta bonne humeur, tes solutions à tout. Bonne route à tous, prenez soin de vous, c'est le secret de la longévité et du bien-être. Bonnes vacances à tous. Merci mesdames d'avoir participé à cette dernière émission. Et puis au plaisir de vous rencontrer ailleurs peut-être ou autrement. Enfin, en tous les cas, on peut rester en contact. Merci Christine.
Merci beaucoup, toute bonne chance à vous.
Merci Bérénice, merci Ange. Beaucoup. Au revoir, vous êtes revoir. Sur Couleur FM 97.1. C'était l'émission Tout Feu, Tout Femme. Tout Feu, Tout Femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.